Alors, comme je sais qu'il n'est pas bon de frustrer les gens des questions qu'ils veulent poser, nous allons passer à la tactique numéro 2. Question 3 par 3, monsieur.
Henri Sébron-Lavaux, consultant Xmine Consult. Deux petites questions. La première, des LMS, Learning Management System, comme ClaroLine ou Moodle, est-ce que ça permet de faire du MOOC? Et la deuxième question, vous avez lancé à Sciences Po la semaine dernière un MOOC de Bruno Latour. Ça coûte combien?
Alors, madame, 20 000 étudiants au CNAM.
25.
25 000.
Voilà, donc tout d'abord, je voulais remercier Philippe Durance pour son invitation et puis surtout pour dire qu'avec mes collègues du CNAM, Karim, Philippe et bien d'autres, ça fait très longtemps qu'on fait de l'enseignement à distance. Et que faire un MOOC, en fait, c'est un peu une sorte de parcours. Hein, et le fait d'avoir toute cette expérience depuis 10 ans d'enseignement à distance, c'est très important. Au CNAM, donc, on a participé au lancement de 4 MOOC. Les derniers chiffres que j'ai aujourd'hui font état de 37 000 inscrits. Sur la plateforme SubFun, où il y en a 147 000. Et donc, les premiers MOOC qui ont été lancés donc, il y a 15 jours se passent très bien au niveau technique et ont des... très intéressant, ont des publics complètement nouveaux. Donc ça, c'est important. Le MOOC donc de manager au leader commence le 7 février. En fait, j'avais deux remarques. La première remarque, c'est de dire en fait que ce qui est important, c'est plus de se poser la question est-ce qu'il faut faire un MOOC ou pas. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on apprend quand on fait un MOOC. Parce que de toute façon, on est dans une logique, on va plus se poser la question est-ce qu'on va avoir un téléphone avec Internet, puisque de toute façon, on l'a. Donc c'est un peu la même chose, c'est qu'est-ce qu'on apprend en tant qu'institution, en tant qu'apprenant et en tant que enseignant. Ça, c'est la première question importante. Et la deuxième question, c'est en fait, en termes de sens et de stratégie, c'est là qu'il faut faire des choix. Et comme tout choix, c'est difficile à assumer. Et il y a bien sûr des erreurs, mais quand on prend une question de sens et une question de stratégie, il faut aller jusqu'au bout. Donc, en termes d'apprenant, moi, ce qui me semble essentiel, c'est qu'en fait, la première chose à voir, c'est que c'est la première fois que l'individu a la totale liberté d'exercer son employabilité grâce au MOOC. On peut apprendre ce que l'on veut, gratuitement, au-delà de ce que l'entreprise nous demande d'apprendre ou ce qu'un diplôme ou un parcours nous demande d'apprendre. On est dans une liberté totale pour la première fois de l'apprentissage. Et ça, c'est quand même extraordinairement important parce que ça évoque quelque chose que les entreprises aujourd'hui disent. Et on a reçu au CNAM un colloque qui s'appelle Trou Paris qui regroupe 200 entreprises avec, sur le recrutement 2.0. Et les recruteurs disaient quoi? Ils disaient aujourd'hui, on sait que les gens qui auront fait des MOOC, même s'ils ne sont pas certifiants, s'ils le mettent sur leur CV, ça sera des plus. Comme vous avez fait de la musique, vous avez fait des expériences à droite ou à gauche, ça sera des plus sur des CV. Et on le regardera et ça sera une valeur ajoutée indéniable. Donc de toute façon, ce n'est plus la question est-ce que je vais faire des MOOC ou pas. La question, c'est quel MOOC je vais faire et comment je vais montrer mon ouverture d'esprit. Et comment, justement, ces MOOC vont être quelque part une façon de faire un personal branding de mon CV. Et ça, dans une stratégie, quelque part, de réseau social, etc., c'est très important. Et c'est ce qu'apporte à l'apprenant, en fait, cet outil. La deuxième chose importante, c'est qu'en fait, le MOOC, d'ailleurs, quand on s'est lancé dans les MOOC, l'idée, c'était pas de faire de l'enseignement. C'était de faire quelque chose dont on ne connaît pas le nom encore. Voilà. Il ne faut pas vouloir comparer. Ça n'a rien à voir avec un cours. Moi, je fais des cours en présentiel, des cours en FOD depuis 10 ans. Mais ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de complètement différent. Et la différence au-delà du massif, c'est que c'est le premier contenu qui utilise les réseaux sociaux totalement comme allié dans l'enseignement. Donc, cet allié, je donne du contenu, de la connaissance, mais en même temps, je fais du buzz, j'anime et je déploie une stratégie réseau social learning, c'est totalement novateur. Donc, à mon sens, là, on est dans une autre façon d'utiliser l'open réseau social. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire rapidement sur l'apprenant au niveau du professeur. Alors, au niveau de l'enseignant, il y a deux choses qu'on ne dit pas. Premièrement, c'est qu'en fait, c'est la première fois que quelqu'un rentre dans notre classe. En fait, c'est tout le monde rentre dans la classe. Donc, il y a l'idée du contrôle. Jamais on est venu contrôler mon job quand je fais un show dans une classe. Là, j'ai tout le monde qui contrôle. Donc, quelque part, on est dans une logique où, au-delà des évaluations, c'est un contrôle live. Donc, c'est extrêmement changeant comme situation. L'autre point, c'est qu'on est complètement dans une logique qui est de tout repenser. On doit faire du ludique. On doit faire du cours, on doit faire du fait avec des preuves, on doit faire quelque part autant d'accompagnement, bien sûr en groupe, que de contenu. alors que dans un cours, on vient, on fait son choix, etc. Donc on n'est pas du tout dans la même logique où un cours est reproductible. Là, il n'y a rien de reproductible. À chaque fois, c'est un saut dans le vide. On est sans cesse dans un environnement de risque et de hors zone de confort. Et le troisième point pour l'institution, c'est que c'est la première fois où on travaille en collaboratif. Un MOOC, c'est une équipe. C'est une équipe de techniciens, c'est une équipe d'ingénieurs pédagogiques, c'est un enseignant et c'est des testeurs avec des web community managers, etc. Un MOOC, c'est un travail d'équipe. Et ça, dans l'enseignement, c'est assez rare également. L'autre point important, mais bon, on pourrait en parler très longtemps, mais je ne veux pas monopoliser la parole, c'est qu'en fait, on est vraiment sur la question de quelle est la stratégie pour l'établissement de se lancer dans un MOOC. Est-ce que c'est pour de l'image ? Est-ce que c'est pour capter des auditeurs vers du présentiel ou de la distance ? Est-ce que c'est pour donner justement des cours qui ne sont pas dans le catalogue ? Est-ce que c'est pour professionnaliser et permettre à des gens de venir faire de la formation, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la première fois que des apprenants peuvent être anonymes et peuvent oser faire des formations qu'ils n'oseraient pas. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement magique. On n'ose pas parfois aller sur les bancs de l'école. Là, on ne vous demande rien. Vous êtes un anonyme. C'est comme ceux qui ont gagné l'award, je voyais, de musique. C'est pareil, vous avez le casque. Et donc, ça vous amène et c'est un pied pour faire de l'enseignement et pour faire de l'apprentissage différemment. Je m'arrête. Ma dernière chose, c'est une question. J'ai une question pour vous tous, parce que j'ai adoré ce que vous avez dit sur prendre des risques, j'ai adoré sur ce que vous avez pu dire sur la granularisation, la gamification, la scénarisation, et sur le très bel exposé de Philippe sur l'effet générateur. J'ai une question. Aujourd'hui, j'ai 25 000 personnes. Quelles sont les questions? Quelles sont les métriques? Quels sont les chiffres que vous aimeriez avoir? Quelles sont les questions intelligentes qu'on pourrait leur poser pour avoir de la matière et avoir des faits sur qui ils sont, pourquoi ils font, etc. Est-ce que vous avez des idées ou des conseils?
Je vais être très bref. Je suis professeur au CNAM également. Ma collègue a très bien exposé la question micro. Je voudrais exposer la question macro. Tout tourne dans le débat, tourne autour de quoi de neuf sous le soleil, avec des points de vue qui sont assez contrastés sur le sujet. Je pense que ce qui est neuf sous le soleil, c'est quelque chose qui s'est passé avant. Et la première question portait sur la discipline dont on parle. Je pense qu'on ne peut pas parler des MOOC en général, ça dépend du champ disciplinaire dans lequel on se situe. Moi, je suis prof de gestion. La gestion est un univers très intéressant parce que c'est du MOOC qui peut être tout à fait standardisé. C'est du MOOC où on parlait du copycat, c'est du MOOC où la servilité de la copie est un argument de vente. Donc c'est très ambigu, si vous voulez, la question du standard, pas standard, du MOOC, du dur. Pour en revenir à ma question, c'est très simple. Ce à quoi on assiste, c'était une dégradation de la qualité de l'enseignement dans la gestion, parce que les critères de recrutement n'ont plus rien à voir avec la qualité du pédagogue, savoir la qualité de chercheur et autres. Ouais. Et parallèlement, quand on parle d'augmentation du coût de la formation, ce n'est pas de la formation dont on parle, c'est du diplôme. Je voudrais donc qu'on soit très précis sur cette question-là. La raison pour laquelle le MOOC est si peu révolutionnaire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il apporte une connaissance qu'on trouve par ailleurs. En fait, il apporte une connaissance d'une qualité très supérieure à celle qu'on trouve dans beaucoup de modules diplômants, parce que les profs ne sont plus aussi bons qu'avant. Ce qui est différent, là où on n'est pas allé dans le MOOC et qui serait authentiquement révolutionnaire, c'est de faire du diplômant gratuit et pas juste de la transmission du savoir gratuite. C'est ça la nuance et c'est là qu'on n'est pas encore allé et c'est là qu'il me semble que le CNAM devrait s'orienter.
Jean Potage, enseignant sur les achats dans différents masters, j'ai écrit ma question pour être sûr d'être bref. Les campus des grands groupes, des multinationales, et je pense à Thales Université où j'ai beaucoup œuvré dans le passé, pourrait-il être une première phase à suivre en termes de business model, donc, puisqu'on aurait là donc des MOOC privés, je ne sais plus quel nom vous avez donné, monsieur Boulier, le MOOC Safran, le MOOC AXA, le MOOC Saint-Gobain, etc. Parce que là, je pense qu'il y a un vrai business model derrière ça, au titre de la formation continue et du MOOC d'entreprise. Et du coup, les cloisonnements qu'il pourrait y avoir seraient éventuellement recherchés en termes différenciés entre les entreprises. Comment se différencier en pilotant bien ses managers avec des bons MOOC? Une toute petite question, parce que je suis un néophyte dans le domaine. Est-ce que faire du serious game, c'est un premier pas vers les MOOC pour apprendre?
Donc, des réponses un peu factuelles. Claroline et les MOOC, ou Claroline ou Moodle, non, ça ne va pas automatiquement de soi. En revanche, pour un MOOC, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait une forme de Learning Management System. Donc, il faut qu'il y ait forcément une forme de pilotage de la communauté qui va avec. Actuellement, les plateformes prétendent le faire. En réalité, il y a de quoi faire encore pour améliorer cette qualité-là, quoi. Donc, il y a sans doute un mix des deux qui serait intéressant. Mais sur un LMS, vous pouvez mettre des contenus que vous voulez, etc. Vous pouvez le faire ressembler à un MOOC, si vous voulez. Mais c'est, pour le moment, ce n'est pas utilisé de façon ouverte, en général. Ce sont des gens qui ont payé leurs droits à l'université ou à l'école, en général. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes environnements. Mais on peut très bien imaginer. Il y a de toute façon besoin de gérer une promotion, de gérer une relation, etc. Et le LMS peut être un outil pour cela qui viendrait en complément éventuellement de ce qui est fait sur les MOOC. Sur les coûts, celui de Bruno Latour va ouvrir seulement le 10 février. Celui qu'on a ouvert, on en est sans doute, on est justement en train de chiffrer ça, mais c'est sans doute autour de 100 000 euros quoi, pour la production d'un MOOC. Sur la dernière question sur les entreprises, moi je suis entièrement d'accord. Effectivement, je pense que là, il y a vraiment quelque chose, mais ce qui veut dire que ce n'est plus du tout dans la logique massif, qui peut être massif quand même, parce qu'un grand groupe comme Thales ou un autre, ça fait quand même du monde éventuellement. Mais c'est quand même des logiques différentes, parce que là, vous avez des objectifs ciblés, et vous avez un public, y compris, bien ciblé. Et il y a un business model, certainement, qui est celui que Udacity, d'ailleurs, a bien compris, et sur lequel il s'est mis immédiatement. Après, j'aurais des remarques sur ma collègue Knapp sur la façon dont elle affirme certaines choses de façon très convaincue sur le fait que dans un MOOC, il n'y a rien de reproductible. Oui, ce que j'apprécie dans ce qu'elle dit, c'est qu'en réalité, c'est les MOOC peut-être que vous créez, si vous voulez. Et donc ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est intéressant parce que ce sont des modèles précisément qu'il faudrait retrouver. En réalité, quand même, le principe même du MOOC, c'est que justement, ça doit être reproductible. Et le principe même du MOOC tel qu'il est, il nous a été vendu. Je suis entièrement d'accord avec vous que précisément c'est de ça dont il faut se débarrasser. C'est de ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison de dire que c'est précisément ce type d'accompagnement et le fait que ce ne soit pas reproductible du coup. Mais vous voyez bien du coup les conséquences que ça a en termes de coûts. C'est un peu ce type de situation-là. En réalité, il y a quand même une tendance au contraire à la réexploitation massive dans ces domaines-là qui est quand même la logique qui est au cœur de l'industrialisation qu'évoquait tout à l'heure Daniel.
Si vous me demandez la métrique que j'aimerais avoir, si je vais démarrer de ça, c'est en fait qu'est-ce que les apprenants, ou d'ailleurs tous ceux qui participent, produisent et se disent les uns aux autres. Au sens où il faut qu'on fasse très attention à cette tentation permanente de considérer que l'enseignement, c'est que la transmission d'un contenu bien mis en scène, bien, quelle que soit la manière, un bouquin, un jeu, etc. Et la gamification, c'est une forme d'éditorialisation qui peut marcher hein, dans un certain nombre de cas, plus ou moins bien selon les cas. Cette partie-là, pour moi, elle est intéressante, elle ne transforme pas grand-chose, à mon avis. Ou alors elle est intéressante justement en se disant, on crée un matériau, une matière première, dont une partie va être réutilisable. Et il est clair que derrière cette question-là, à la question de la numérisation des contenus d'enseignement, quelle que soit la manière dont on lit, même si on l'appelle la question de la propriété, de la réutilisation, de l'ouverture des contenus, etc., va être posée. Est-ce que, effectivement, le cours de tel enseignant va pouvoir être réutilisé dans un autre contexte? À quelle fin? Il y a cette dimension qui est évidemment, est-ce qu'on s'en sert pour supprimer des postes d'enseignants? Ça suppose qu'effectivement, on peut considérer qu'il suffit de transmettre le contenu pour enseigner, ce qui a priori n'est pas très très efficace, ou bien est-ce que ce dont on parle, c'est au fond d'un mouvement d'ouverture de l'accès à la connaissance et aux manières de la présenter et de pouvoir s'en servir et le remettre en scène dans d'autres contextes, etc. Je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'à la fin, effectivement, un enseignement, il y a eu quelque chose qui s'est échangé et quelque chose que l'apprenant a produit et a partagé avec quelqu'un d'autre. Sinon, vraisemblablement, il n'a pas compris grand-chose, il ne va pas être capable de le remobiliser à d'autres moments. Ceci s'oppose à la question de la gratuité, sauf si on considère que la gratuité est financée par l'État, enfin par l'État, par le public, le secteur public. Et ça, nous avons aujourd'hui un problème qui est que nous allons plutôt globalement dans la direction opposée. Mais la gratuité sans coût, celle-là, je n'y crois pas du tout parce qu'elle suppose à ce moment-là qu'on a intégralement considéré que la mise en scène de la connaissance dans une plateforme dont le coût variable est nul suffit. Et ceci, je n'y crois pas.
Philippe Gignet-Gillet, École Polytechnique. À propos d'innovation, on parle souvent d'opportunités, mais en fait, derrière l'innovation, il y a souvent des peurs. Et donc, mes deux questions étaient sur ce qui n'est peut-être pas toujours dit, mais qui est de l'ordre des peurs. Est-ce que, à travers le MOOC et derrière, plus généralement, les évolutions blended learning et autres, est-ce qu'on va vers une remise en cause, un éclatement du rôle de l'enseignant entre le gourou, celui qui est le subject matter expert, entre celui qui est un assistant de TD, donc on passe du cours en cathédrale, l'assistant de TD. On a eu aussi, historiquement, à la Oxbridge, le directeur d'études, le tuteur. On aura peut-être demain l'animateur de communauté en ligne. Donc, y a-t-il des remises en cause? Et aussi, y a-t-il une remise en cause des missions des institutions d'enseignement? À la fois d'ailleurs en termes de captation d'étudiants, parce que faire un programme en ligne, peut-être qu'il y a certaines écoles de commerce ont leur business model qui fonctionne grâce à des étudiants étrangers. Peut-être qu'on a certains départements universitaires qui fonctionnent grâce à des étudiants étrangers. Y a-t-il un risque de captation? Et plus fondamentalement, d'éclatement de la chaîne de valeur. Parce que, comme il a été dit, c'est pas uniquement des diffusions du contenu. Ça peut être de l'apprentissage, ça peut être de la certification. C'est aussi parfois le recrutement. C'est aussi parfois le placement et l'animation du réseau. Donc, est-ce qu'on a des risques? Et ma question était parce que le blended learning arrive. Si vous vous rappelez que le principal client de Harvard en termes d'études de cas, la rumeur dit que c'est l'University of Phoenix qui est l'enseignement en ligne aux États-Unis. Harvard a lancé en octobre une première formation sur comment enseigner en ligne les cas de gestion, leur méthode des cas. Nous étions 15 pour le faire. Et donc, voilà, remise en cause des rôles, remise en cause de nos missions.
Gérard Bédu, nouveau retraité. Quand on parle des MOOCs, le regard porte surtout sur l'Amérique du Nord. Est-ce que les universités chinoises se sont mises sur la piste des MOOCs? Est-ce que cette question est peu pertinente? Mais si d'aventure elle l'était, est-ce que ce ne serait pas un élément supplémentaire de compétition, et de quelle nature, entre les États-Unis et la Chine? Merci.
Ça dépend quelle langue ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y a un public nombreux en Chine. Monsieur derrière, oui.
Jean-Luc Bellin, Bell Labs. D'abord, merci pour la qualité du débat. Moi, j'ai deux sujets que vous avez un peu abordés, mais j'aimerais vous entendre approfondir ces deux sujets. Le premier, c'est la géographie. Et le deuxième, c'est la formation. Je pense qu'il faut insister sur la géographie. Parmi les inégalités à l'accès à la connaissance sociale, économique, il y a une inégalité géographique. On parlait tout à l'heure des Chinois, alors les universités chinoises, je ne sais pas, mais les étudiants chinois sont sur les MOOC. Hein. Et donc, je pense que ça, c'est important. Si on est à Bamako, dans la banlieue de Chengdong, on n'a pas le même accès. Donc, j'aimerais vous entendre approfondir ce point-là. Et sur la formation, on a quitté une période où, finalement, on apprenait des connaissances et après, on rentrait dans le rail professionnel. Maintenant, l'apprentissage est continu. Et de ce point de vue-là, au niveau du modèle économique, l'implication des entreprises dans l'apprentissage continu, etc., de la formation, où on voit d'ailleurs, vous avez parlé des formations en ligne qui existent dans les entreprises, et on voit qu'elles quittent, les entreprises commencent à regarder comment partager dans les deux sens. Donc, il y a un point dans l'économie des MOOC par rapport à ça qui est intéressant de creuser, il me semble.
Alors certainement que sur l'idée des peurs, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que moi je suis un peu étonné de la séduction que les MOOC produisent chez les enseignants. C'est-à-dire que je me disais effectivement qu'ils allaient leur faire peur. Mais en réalité, bon, mes collègues tout au moins, non, c'est compris, ça a l'effet fascinant du nombre. Vous voyez, le coup de Thurn, effectivement, avec les 150 000. Bon, parce qu'on est tous quand même des narcissiques quand même sur ce plan-là, quoi, hein, de se faire connaître comme ça. Alors,
il y a effectivement une tendance quand même à être séduit pour les enseignants, précisément, par ça, quitte à ne pas voir qu'effectivement, ça change complètement la nature de l'enseignement et que ça peut, du coup, remettre en cause beaucoup de choses. Je pense qu'en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à l'occasion des MOOC, mais ce n'est pas seulement les MOOC, si vous voulez, parce que le comportement de nos étudiants a changé aussi, leur façon de prendre des connaissances massivement dans beaucoup d'autres endroits, etc. C'est l'Internet en général là qui est la clé. Le MOOC ne va qu'à rajouter une couche ou amplifier l'affaire. Et à partir de ce moment-là, vous êtes quand même dans une situation où vous ne pouvez plus fonctionner dans le modèle asymétrique pur que nous avions considéré comme étant le modèle canonique, disons. Et donc là, il y a quand même quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, ça remet en cause toutes les autorités, et notamment les autorités des profs, ça c'est sûr. Et à partir de ce moment-là, ils sont obligés de réinventer des rôles. Moi, je considère ma classe maintenant comme un chef d'orchestre plutôt. C'est-à-dire, il y a des pupitres, et puis etc. Et donc, je distribue les rôles. C'est ultra programmé, je peux vous dire. C'est un peu compliqué, mais en présentiel. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une autre façon de travailler, parce que vous n'êtes plus seulement celui qui déverse des choses, mais c'est effectivement celui qui suscite, qui fait rebondir, qui gère effectivement la production collective de quelque chose qui fait que ça va être, comme on dit dans les interfaces, on dit l'expérience utilisateur. Ben là, c'est ça, l'expérience étudiant. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce type de discours qui est peut-être un peu facilement vendeur, si vous voulez, mais quand même, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est important, c'est qu'à la fin du cours, vous soyez resté avec quelque chose qui vous est marqué, qui vous avez au moins une chose qui vous dit « Alors là, je n'ai pas compris ça, ça y est, j'ai compris ça. » Ce n'est pas forcément toute l'architecture. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Et donc, ce moment-là, vous ne le savez pas lequel c'est. Mais si vous multipliez les portes d'entrée, vous avez des chances d'obtenir peut-être un peu de résultats. Quelquefois, il est très imprévisible. C'est-à-dire que ça n'a pas changé là où vous auriez voulu que ça change ou de la façon dont vous auriez voulu que ça change. Mais au moins, il s'est passé quelque chose. Donc, cette remise en cause, là, à mon avis, elle est certaine. Et je pense qu'on peut profiter du levier du numérique pour justement accompagner les enseignants dans l'acceptation de cette remise en cause. Parce que c'est souvent ça, hein, le numérique, c'est un prétexte aussi pour faire passer d'autres changements. Parce que vous dites, ah bah oui, c'est la technique, ah bah oui, on est obligé, ah bon, alors d'accord. Mais en réalité, c'est pas ça le problème. C'est que c'est à partir de là, ça va vous permettre de changer votre attitude. Mais comme c'est technique, c'est moderne, ah bah on suit. Voilà, donc oui, on suit, mais en réalité, c'est pas ça l'objectif. C'est de vous faire réfléchir, nous faire réfléchir à nos propres comportements et d'en profiter pour essayer d'améliorer cela et de vaincre ses peurs, enfin de les surmonter tout le monde, ou de vivre avec, disons, hein, parce que ça reste présent. De ce point de vue, c'est une ressource intéressante. Une précision seulement sur la question sur la Chine. Oui, la Chine a noué un partenariat en tant que tel avec edX, donc pour récupérer la plateforme edX
comme plateforme open source que les Chinois vont utiliser. Je n'ai pas plus d'informations sur les types de cours qu'ils ont créés et la façon dont ils l'ont fait, mais je sais que c'est un partenariat qui a été créé. Sur la question de l'inégalité géographique, moi je pense que c'était une des craintes que j'avais au départ avec les MOOC, effectivement, en se disant finalement on a, mais paradoxalement pas forcément dans le sens que vous dites, c'est-à-dire que oui, avec les MOOC ça va réduire les inégalités. Moi, je me disais, ça pourrait fonctionner dans l'autre sens. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de télémédecine. Au début de la télémédecine, j'ai vu les effets dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on se dit, finalement, vous envoyez vos examens, tout, à l'époque, c'était en Norvège, puis du coup, le personnel local est complètement court-circuité, vous voyez. Et c'était un peu l'enjeu, la crainte. En réalité, je pense que ça ne va pas fonctionner, parce que de toute façon, les MOOC ne vont pas fonctionner comme ça, donc ce n'est pas très grave. Mais je pense que le principe, quand même, c'est précisément d'être capable de connecter, ça a un lien avec le blended learning de tout à l'heure, c'est-à-dire de connecter les avantages de la distance et de l'excellence, de la qualité ou de la particularité de certains enseignements, et les avantages de la présence et donc du local avec ses particularités, avec cette localisation, y compris culturelle, dans ses traditions, etc. Donc, qui revalorise y compris le rôle des profs locaux. On peut imaginer de nouer y compris des partenariats. Nous, on le fait par exemple. Notre enseignement de l'espace mondial va être relayé par des enseignants au Brésil, dans plusieurs universités avec qui on a des partenariats. Il y a un travail déjà qui est fait pour travailler avec les équipes locales pour que ça ait du sens dans leur propre logique d'enseignement. Et c'est ce type de partenariat-là qui me paraît intéressant parce qu'à ce moment-là, tout le monde profite de l'affaire. Quoi. Et pas seulement en disant « venez tous, il n'y a que nous qui sommes bons ».
Alors, sur les chaînes de valeur, j'ai parlé tout à l'heure de dégroupage. Je pense profondément que voilà, pour un marteau, tout est un clou. Pour un système informatique, tout est un process et un système. Et donc, il a vocation à être optimisé. Pour l'optimiser, il faut d'abord le décoder, le décomposer en éléments les plus élémentaires possibles, en atomes, et ensuite, effectivement, envisager de les recomposer. Donc, la composition qu'est un établissement, une formation, un cours, un examen, etc., il y a cette tentation extrêmement forte de dire bah, tout ça c'est un process, optimisons-le, industrialisons-le, etc. Et vous allez trouver par exemple dans la littérature d'IBM, sur la classe qui apprend de vous ou dans d'autres choses, les conséquences de ça, c'est-à-dire donc ce qui est formidable c'est qu'enfin tous les enseignements de gestion vont produire le même niveau de connaissances, on pourra enfin les comparer vraiment pour de vrai parce que les gens sauront exactement les mêmes choses, plus ou moins bien, et donc pour les employeurs ce sera le paradis sur Terre. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche aujourd'hui, que ça réponde aussi fortement aux attentes des employeurs, mais c'est présent dans le discours autour de la numérisation de l'enseignement et ça a des conséquences d'un point de vue industriel. Je voudrais dire une chose sur la question des missions des profs, sur la question du tout au long de la vie, etc. Dans d'autres domaines, on travaille notamment sur l'avenir du travail. Il y a deux choses qui nous frappent aujourd'hui, c'est que le numérique en particulier était censé permettre aux gens de travailler de n'importe où, à distance, etc. Et nous sommes dans un moment où tout le monde essaye de réinventer les lieux du travail. Et notamment, les gens du numérique sont en train de créer partout des lieux de coworking, etc. Ils n'ont pas des télécentres, ce n'est pas des lieux proches de chez eux. Pour aller dans les coworking, on va souvent bien plus loin que chez son employeur. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'est la vraie communauté de travail, des gens qui vont faire 20 métiers et 15 entreprises dans leur vie. La vraie communauté de travail, c'est des gens qui partagent avec eux un destin, des compétences, des sujets qui les intéressent, des bouts de projets. C'est une espèce de diaspora en recomposition permanente. Ça, c'est probablement l'avenir, ou une part de l'avenir, mais c'est beaucoup plus important, cette communauté de travail, que, en tout cas, la communauté du projet sur lequel ils sont pendant les six mois, ou que leurs collègues de la même entreprise, dans plein de situations. Et donc, si on commence à appliquer ça à l'éducation, je suis absolument convaincu que les clés du changement, et ce qui nous marquera sur le fait qu'on aura changé, c'est la transformation des communautés d'apprentissage, y compris dans le temps et dans la durée, et c'est la transformation qui n'a même pas commencé des lieux d'apprentissage. Regardez ce lieu-là, qui est voilà, antédiluvien, hein. mais ils le sont tous, hein, c'est pas qu'ici. Et qu'on verra que ça a changé le moment où on dira « Oh là, mais ça ressemble plus du tout à une salle de classe, mais à un autre truc dans lequel on apprend. »
Bonjour, Aurore Brachet du Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Donc j'ai bien entendu que les MOOC allaient toucher en premier l'enseignement supérieur. Mais du coup, je m'interroge sur la nécessité éventuelle de s'attaquer aussi au premier degré et au second degré. Et comment, quelque part, ne pas oublier l'éducation initiale dans ce mouvement-là par rapport à la nécessité d'innovation pédagogique. Et je pense qu'on est tous face à l'inéluctable, à savoir la remise en question des pédagogies actuelles. Et comment adapter ces MOOC, alors sans faire un copier-coller comme vous l'avez dit, mais les adapter pour que ce soit une nouvelle force en termes d'innovation pédagogique au niveau du premier et du second degré. Donc quelles seraient pour vous les perspectives des MOOC dans le premier et second degré? Et par ailleurs, quelles seraient les étapes nécessaires et préalables pour mener des expérimentations dès aujourd'hui?
Bonjour, Florine Marie, EPA Plaine de France. Alors, Monsieur Kaplan, en fait, a commencé à aborder la question que je voulais poser, c'est-à-dire, vous disiez que les gens du numérique avaient commencé à transformer les lieux de travail. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce que les MOOC, ça implique sur la transformation des lieux d'enseignement et les lieux fréquentés par les étudiants. C'est-à-dire qu'on développe des nouvelles façons d'apprendre, mais ça implique aussi des nouveaux besoins. Donc il y a des séparations qui se font entre lieu d'enseignement, enfin l'université à proprement parler, le lieu d'habitation et les tiers-lieux. Et voilà, je voulais savoir si vous commenciez à appréhender ces nouveaux besoins en termes d'espace physique.
Oui, bonjour Jean-Colin, là, je suis surtout parent d'élève. J'ai pris une petite note tout à l'heure qui est le MOOC est un animal à la fois informatique et sociologique. Donc c'est une approche peut-être un petit peu curieuse ou inattendue dans cette audience. Et j'ai une deuxième note en dessous, c'est où va être l'inattendu ? Parce que ce genre d'animal, on en a déjà rencontré un certain nombre. Et je citerai simplement Wikipédia, qui était a priori pas prévisible au départ. Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir des phénomènes et où va être l'inattendu ?
Merci. Voilà, ça va permettre aux trois intervenants d'en répondre, mais aussi de conclure pour aujourd'hui. Et après, je ferai une petite synthèse très rapide.
Alors, sur la question du premier degré et du second degré, je pense qu'il y a une possibilité de réfléchir au MOOC comme équivalent des manuels, si vous voulez. Tellement c'est orienté diffusion dans sa version classique. Je ne dis pas la version que CNAM fait ou d'autres, mais qu'on essaye de faire. Mais si vous voulez, dans la version classique, c'est très proche des manuels. Or, la question des manuels, du coup, va devenir cruciale. De toute façon, on a déjà essayé. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années là-dessus, essayer de refaire des manuels numériques, justement, enfin, qui soient autres que ceux que l'on a. Et c'est un business énorme, il faut bien le voir. Et c'est un enjeu très important de ce point de vue. Donc, il se peut que finalement, les MOOC viennent dans la boucle pour essayer de réinventer les manuels. Mais parce qu'on est du coup dans l'idée du stockage de la connaissance, pas de la connaissance d'ailleurs, du savoir, et qu'on est dans une idée de stockage qui peut du coup être recyclée d'une façon ou d'une autre et intégrée du coup à une pédagogie d'une façon ou d'une autre. Donc ça pourrait être une ressource, c'est-à-dire un centre de ressources qu'on peut reboucler autrement. Mais il faudra bien autre chose pour faire des manuels intéressants et surtout mettre en scène, scénariser la relation que l'on a au manuel dans un enseignement. Et ça, les enseignants du second degré le font souvent. Je veux dire, ils sont obligés de jongler, de trouver sa place au manuel d'une façon ou d'une autre. Je signale quand même que nous, dans nos expérimentations qu'on l'on fait sur le programme Forecast que j'ai évoqué, qui s'appelle Formation à la carte, par la cartographie des controverses à l'analyse des sciences et techniques, nous avons des lycées qui sont partenaires, dont des lycées de décrocheurs. Et donc, nous travaillons précisément à faire avec les lycéens la customisation, j'allais dire l'adaptation de nos processus d'exploration des controverses avec ces publics-là. Donc, sur des formats plus courts, et puis qui leur font, dans le cadre de leur TPE, ça leur permet de faire des choses par la suite. Et ça marche très, très, très bien. Je veux vous dire que là, ça les accroche, parce qu'on prend des sujets qui les concernent. Enfin, ils prennent des sujets, d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui les choisissent. Et on les met dans une forme d'exploration, y compris avec des outils informatiques qui vont leur permettre d'aller explorer le web, d'aller utiliser des crawlers ou des choses comme ça, sur le sujet qui les intéresse. Donc, on peut trouver des ressorts qui sont numériques, qu'ils soient autres que seulement des principes de diffusion. Parce que ça, si vous voulez, c'est un peu le à bas de l'affaire. Sur l'histoire de socio-informatique, oui, je suis ravi que vous ayez fait cette note-là, puisque moi, je suis sociologue, effectivement. Je travaille sur les architectures socio-techniques depuis tout le temps. Et donc, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est bien cette articulation-là qui est au cœur de cela, et de bien savoir ce que l'on fait quand on choisit des architectures techniques. Ben oui, on génère un certain nombre de types d'organisations. Et vous avez entièrement raison aussi de dire Wikipédia, mais du coup, Wikipédia n'est pas né à partir d'un système particulier que sont les MOOC. Il est né sur Internet autrement, et donc on peut très bien, y compris la Khan Academy, on la met dans les MOOC, mais c'est quand même un peu particulier, c'est autre chose, je veux dire, c'est une initiative qui pour moi a beaucoup de qualité, mais d'un autre type, si vous voulez. Et donc il y aura bien d'autres initiatives comme cela qui sont indépendantes de ce grand processus massif, j'allais dire, de focalisation de l'attention et du business autour de ce modèle, ce qui est la force de ce type de dispositif et qui en même temps peut en devenir la faiblesse, parce qu'en réalité il va y avoir d'autres choses qui vont éventuellement émerger à côté et qui seront plus créatif, plus adapté, plus coopératif, par exemple, c'est possible. Mais je pense que c'est ce que le web tel qu'il est maintenant nous a prouvé. Donc c'est vrai que le modèle de production des plateformes, c'est un modèle qui est bien présent sur le web, sur Internet en général, avec une logique de plateforme, de captation et de monopole d'une certaine façon. En réalité, on voit bien qu'il y a d'autres modèles, et c'est sans doute cela. Moi, j'avais appelé ça des COOC, tant qu'on y est, inventons des sigles, des collaboratives open online course. Il y a plein d'autres choses à faire de ce point de vue-là.
Je vais juste répondre sur le primaire et le secondaire. Alors, je pense que oui, ce sont des candidats à un changement rapide et on a un certain nombre de signaux qu'il faut effectivement que ça bouge. Je pense que la dernière chose à faire pour le moment, enfin, que le MOOC n'est vraiment pas la priorité, au sens en tout cas du MOOC diffusion, parce que le problème de notre école aujourd'hui n'est vraisemblablement pas la qualité de la scénarisation du contenu du cours magistral et du manuel. Même les manuels sont absolument formidables. Donc s'il y a un problème, c'est qu'il est ailleurs. Mon analyse, et je ne vais pas aller plus loin, c'est que le problème, c'est que l'école, c'est le dernier endroit où on dit aux gens, le dernier endroit de la vie, où on dit aux gens que ce n'est pas bien de travailler ensemble. À partir de là, on a tout faux et on peut scénariser comme on veut les cours, on est à côté. Donc, focalisons-nous là-dessus, sur le fait de travailler ensemble, et après, on verra sur la qualité des cours et des manuels.
Celui qui est certainement le plus proche de ça, du premier degré notamment, enfin, c'est Kahn, justement. Alors, je suis d'accord, ce n'est pas du MOOC, mais en effet, lui, il répond à des besoins qui sont des besoins primaires, quasiment, d'éducation, et avec des effets exogènes, de création de groupes locaux, de traduction dans des dialectes. Enfin, il y a des phénomènes d'appropriation qui sont assez considérables, hein, qui sont assez intéressants à regarder. Mais on n'est pas dans le MOOC type Coursera, Udacity, ou, voilà, qui est plus le côté industriel. Juste une remarque sur les salles de classe, sur les espaces physiques. Ah oui, il y a une conséquence. Les salles se vident, les classes se vident. Et quand vous regardez les grandes universités qui ont mis ça en cours, notamment Stanford, hein, au début, ils se sont vraiment rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'un cours offert à la fois en présentiel et en online, on va dire, en virtuel, bah, beaucoup d'élèves préféraient aller suivre le cours en virtuel plutôt que s'emmerder à suivre, parce qu'ils pouvaient en effet construire leur parcours aussi, enfin leur temps, notamment leur temps d'apprentissage comme ils le voulaient. Ils n'étaient pas obligés d'être présents à telle heure pour suivre tel cours. Ils pouvaient se dire, oh ben non, ça je le ferai demain, ça après-demain, etc. Et construire ainsi leur... Donc voilà, bon, c'est une réponse sur les espaces.
Voilà, ma synthèse. Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? C'est bien compliqué. Alors j'ai compris une chose, c'est qu'il est important de rendre les participants actifs. Donc vous allez me faire dans 15 jours la synthèse de ce que vous avez appris aujourd'hui. Mais si jamais vous n'avez pas le temps, on a quand même réservé un rapporteur à l'avance, Pascal Lefebvre, qui vous enverra dans quelques temps le compte-rendu officiel de la réunion. Mais si vous voulez écrire, je diffuserai. Alors la prochaine séance aura lieu le 31 mars et la question qu'on va essayer d'élucider, c'est alors qu'en est-il des réseaux sociaux dans les entreprises ?